Europe 1. 5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2h au lever du soleil pour prendre connaissance de l'actualité et sourire, histoire de se réveiller le plus agréablement possible. D'ailleurs, d'histoire, il en sera question dans quelques minutes avec le décryptage de l'actualité par Fabrice Damelda. Monsieur Histoire d'Europe 1 revient ce matin sur le parcours du président Bouteflika en Algérie et tente de comprendre les racines historiques de la contestation actuelle.
Merci d'écouter Europe 1, nous sommes le 28 février. Il est 6h, très bon réveil. 5h, 7h, Eva Rock sur Europe 1.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 28 février, voici le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une.
On vient de l'entendre, le ciel passe du bleu au gris, ça c'est dommage, mais les alertes pollution, elles, repassent du rouge au vert. J'espère que vous suivez, tant mieux en tout cas, on vous explique dans un instant. Un crash à 17 millions d'euros, un mois après la disparition du footballeur Emiliano Sala, le FC Nantes assigne Cardiff devant les instances internationales pour se faire payer. Et puis des sapeuses pompières à la fin de ce journal, des procureurs re et des autrices, comme un auteur au féminin. L'Académie française se penche sur les noms de métiers quand ils sont occupés par des femmes.
Europe 1.
Le beau temps, c'est fini, la pollution aussi. En tout cas, ça va s'améliorer en ce qui concerne la qualité de l'air grâce à l'arrivée de la pluie aujourd'hui. Explication de l'ingénieur Pierre Pernaud qui travaille à Air Paris.
Cette sortie d'épisode de pollution, elle est due à un changement des conditions météo puisque au cours de la matinée, on aura des conditions météorologiques beaucoup plus dispersives avec du vent et l'arrivée des averses dans l'après-midi. Ces conditions météorologiques, elles vont permettre de disperser la pollution à la fois dans le sens de l'horizontale, mais aussi surtout dans le sens de la verticale. C'est-à-dire que tout ce qui restait bloqué au sol ces derniers jours va pouvoir se disperser, se diluer en quelque sorte sur un volume d'air beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Il est important quand même de rappeler que l'impact de la pollution sur la santé n'est pas que lié aux épisodes de pollution et au contraire, l'essentiel de l'impact est lié à la pollution chronique, et à savoir la pollution que vous respirez tous les jours, tout le long de l'année et pas uniquement au pic de pollution.
Pierre Pernaud, ingénieur à Air Paris, joint par Jean-Jacques Héry pour Europe 1. Ça va donc mieux en région parisienne et lilloise. En revanche, Lyon est à son tour dans un nuage de pollution aux particules fines. Si votre véhicule n'a pas de vignette critère, vous ne pouvez pas circuler aujourd'hui ni à Villeurbanne ni à Lyon. Idem dans 231 communes du nord de l'Isère. On reste un peu dans le brouillard avec ce drame devenu une affaire judiciaire, la mort du footballeur Emiliano Sala dans le crash d'un petit avion en Manche il y a un mois. Le club gallois de Cardiff, où devait arriver le joueur, va-t-il payer le transfert au FC Nantes? 17 millions d'euros sont en jeu et le club français passe à l'offensive pour récupérer son dû. Christophe Lamar.
Personne ne parle et personne ne veut parler. Aucun commentaire à faire pour l'instant. Au siège de la FIFA à Zurich, on refuse poliment toute demande d'entretien, même par téléphone. Mais on confirme l'essentiel. Oui, le FC Nantes a bien déposé une plainte contre Cardiff pour non-respect des termes du contrat. Les Canaries n'ont toujours pas reçu le premier des trois versements promis, soit 6 millions d'euros. Depuis, les dirigeants nantais ont perdu patience face à ce qu'ils perçoivent comme une manœuvre pour ne pas payer. Du côté de Cardiff, on se retranche derrière le droit. Dans un premier temps, les Gallois voulaient attendre les premières conclusions de l'enquête sur la disparition de l'avion qui transportait Emiliano Sala. L'appareil disposait-il de toutes les autorisations? Le pilote avait-il toutes les qualifications? Les dirigeants de Cardiff et leurs avocats épluchent tous les détails de ce vol tragique. Le feuilleton judiciaire ne fait que commencer et on sait déjà du côté de la FIFA qu'il sera très long.
Les informations de Christophe Lamar pour Europe 1. Le procès de Mehdi Nemmouche, soupçonné d'être le tueur du musée juif de Bruxelles, 4 morts en mai 2014. La parole est à la défense aujourd'hui. Les avocats vont tenter de plaider l'innocence de leur client.
Europe 1, il est 6h03.
En théorie, c'est dans un mois, mais le Brexit est loin d'être arrivé, François.
Oui, puisqu'il n'y a toujours pas d'accord adopté par le Parlement britannique. Il a voté hier pour la nouvelle stratégie de la Première ministre Theresa May. Elle souhaite encore obtenir des concessions de la part de l'Europe. À Londres, au pied de Westminster, les militants pro et anti-Brexit donnent de la voix, comme l'a constaté Anaïs Cordoba.
Drapeau de l'Union européenne, chanson anti-Brexit. Devant le Parlement, l'enthousiasme de ces militants pro-européens qui réclament un second référendum ne faiblit pas. Parmi eux, Olivia espère qu'une extension des négociations joue en leur faveur.
J'espère que l'Union européenne nous accordera une extension à la condition de faire avancer le processus démocratique ici. Par exemple, en organisant un autre référendum, en demandant aux gens « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?»
En face, les militants pro-Brexit sont amers. Pour Marc, étendre les négociations, c'est la première étape des pro-européens pour tenter de contourner le résultat du référendum.
Retarder le Brexit, c'est une trahison. Étendre les négociations, c'est une insulte à la démocratie. Moi, je pense que Theresa May veut entériner le Brexit, mais elle a la pression des pro-européens dans son propre parti qui ne veulent pas seulement retarder le Brexit, mais l'annuler. D'ailleurs, certains de ses ministres ont même menacé de démissionner.
Les dirigeants européens, eux, se sont dit prêts à étendre les négociations à la condition que le Royaume-Uni ait cette fois un plan sérieux et applicable pour sortir de l'impasse. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Nous sommes en plein salon de l'agriculture et c'est ce soir, à minuit, que se terminent les négociations commerciales entre les chaînes de supermarchés et leurs fournisseurs. Un enjeu crucial pour les agriculteurs, plus particulièrement cette année. La loi alimentation qui vient d'être adoptée est censée leur garantir une meilleure rémunération. On vous parle maintenant d'une alliance assez inhabituelle. À ma gauche, le Secours Populaire. À ma droite, le groupe LVMH, numéro 1 mondial du luxe, avec les marques Louis Vuitton, Berluti et Dior. Ils ont monté ensemble une opération en Seine-Saint-Denis hier, une journée destinée aux femmes en situation de précarité pour prendre soin d'elles et notamment de leur visage. Reportage Marion Gauthier pour Europe 1.
Pour l'occasion, les salles du centre sont transformées en loges d'artistes, de grands canapés, des tables de maquillage face à des miroirs entourés d'ampoules.
Faites attention à vos lèvres.
Vesna, jeune mère, travailleur social, maquillée pour la première fois par un professionnel.
On a l'impression d'être de l'autre côté de la télé, dans l'autre côté du miroir. Faut pas oublier, c'est élevé, c'est l'univers de la mode, de la beauté. Mais nous, on n'a pas ça au quotidien, on n'a pas les moyens.
Acheter du rouge à lèvres, mettre du mascara ou même se parfumer, à 61 ans, Oria avait oublié ce plaisir simple de prendre soin d'elle.
On travaille sans arrêt et aujourd'hui, à mon âge, je me dis finalement, j'ai raté. C'est un partage et ça me fait vraiment réellement plaisir d'être parmi ces gens-là.
Après les maquilleurs, les photographes prennent le relais, des futilités nécessaires pour Annick Tamé du Secours Populaire.
Travailler sur la dignité des gens, c'est penser qu'ils ont aussi un cerveau, qu'ils ont aussi des envies. Ils peuvent avoir des envies de luxe, c'est normal. Il n'y a pas à se culpabiliser. Un être humain, c'est pas seulement un estomac.
Une journée de soins et chacune, apaisée, les yeux pétillants, repart avec son portrait. Un livre compilera les meilleurs d'entre eux au bénéfice du Secours Populaire.
Reportage Europe 1 de Marion Gauthier.
Oh, je vais essayer de lire votre phrase. Et puis, devra-t-on dire bientôt une sapeuse-pompière ?
Sapeuse, vous avez dit sapeuse.
Ah non, arrêtez avec ça.
Bref, devra-t-on dire une sapeuse-pompière ? On va pas se mentir, hein. Pour l'instant, ça accroche un peu l'oreille.
Ah bah c'est horrible.
Mais la très sérieuse et très traditionnelle Académie française va ouvrir la porte à la féminisation d'un certain nombre de noms de métiers, de grades, de fonctions. Pierre Herbulot est allé demander à des passantes et des passants ce qu'ils en pensaient.
Si je vous dis facteur, qu'est-ce que vous me dites au féminin ?
Bah, normalement factrice.
Directeur.
Directrice.
Auteur.
Auteur.
Pourquoi pas autrice ?
Ah, c'est moche. C'est horrible.
Je pense que c'est plutôt une bonne idée de donner un titre qui différencie le masculin du féminin pour mettre en relief le féminin qui est trop assimilé au masculin en général.
Alors sapeur-pompier, comment vous le diriez au féminin ?
Moi je dirais sapeur-pompier.
Sapeuse-pompière ?
Non.
Ça vous choque ou pas ?
Oui. Je suis pas trop pour la distinction des sexes, donc effectivement le fait de féminiser le terme, moi, me dérange.
Voilà. C'est quoi votre métier ?
Je suis consultante en fiscalité. Consultante, celui-là, il se met au féminin, effectivement.
C'est pour vérifier, moi.
Procureuse de la République. Pourquoi pas ? Il faut aller jusqu'au bout, alors, maintenant.
Des propos recueillis par Pierre Herbulot. Un rapport est donc rendu aujourd'hui par plusieurs académiciens avant un vote de l'institution dans les prochains jours.
Un champion, Thierry Geffrier.
François Geffrier.
François Geffrier, pardon. Et une non-championne, alors. Anissa Haddadi, je sais pas. Je vais dire une bêtise.
Allez, c'est cadeau.
Merci, c'était le journal de François Geffrier.
Europe 1.
Il est 6h08, Eva Rock. À venir, c'est historique ou comment comprendre l'actualité grâce à l'histoire. Aujourd'hui, Fabrice Dalméda revient sur le mouvement de contestation en Algérie. Quelles sont les racines historiques de ces tensions ? Réponse dans un instant sur Europe 1. Il est 6h09 sur Europe 1 et Varoc. Et un petit point sur la tendance météo du jour avec vous, mon cher Laurent Cabrol.
Eh bien, les nuages arrivent, ils arrivent lentement mais sûrement. Et la bonne nouvelle, c'est quand même il fait encore relativement doux, entre 13 et 24 degrés. Tiens, que dirait Carlos ?
Mais qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc ?
Ah mais...
On l'a pas vu venir.
Cueillez au réveil. DJ Lolo. Non mais ça réveille de bonne humeur. Merci Laurent. On se retrouve dans 20 minutes à peu près, hein, pour une météo complète. Hein. Anissa, les auditeurs sont toujours branchés sur Twitter, mais avec quel genre de musique ?
Bah, on vous demande, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire du CD en Europe, on vous demande quel était votre premier CD et comment vous écoutez la musique maintenant. Alors on a GPC qui nous dit j'ai beaucoup numérisé vers un cloud aujourd'hui. Mais j'achète toujours des CD recommandés par Thierry Géfrotin dans super. Debout les copains, notamment la compile entière Berlioz. Il y a Critia qui nous dit « Bonjour les copines, mon premier CD, c'était ça. » George Michael. Faith, George Michael. Ça, c'était bien. J'espère qu'elle l'a gardé, son premier CD. Et puis, il y a Emergy qui nous dit « Salut la team, c'est presque aussi vieux que moi, le CD. Dorénavant, la musique, c'est uniquement via Deezer ou YouTube. Eh oui. Pour les enfants, le CD est encore utile. Et mon premier CD, c'était ça. » Doc Gynéco. Première consultation, le premier album de Doc Gynéco qui avait cartonné. Viens voir le docteur, entre autres, sur cet album.
Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Merci beaucoup et merci Anissa.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Et l'actualité, c'est aussi les résultats sportifs des dernières heures. Et pour tout savoir, eh bien, on peut compter sur Simon Rubin et son journal des sports. Et Simon, on commence avec du football et un choc ce soir, France-Allemagne.
Et c'est du foot féminin, les Bleus de Corinne Diacre qui continuent leur préparation. On est maintenant à 99 jours du début de l'heure mondiale en France. Ce soir, ça se passe à Laval contre une Allemagne double championne du monde qui sera candidate au titre en juillet. Un test parfait d'après Élise Bousaglia.
C'est vrai qu'on y pense de plus en plus parce que la compétition approche, donc c'est vrai qu'on a hâte de débuter, on a hâte de fouler les pelouses de France avec justement ce public derrière nous. Mais il reste encore un peu de temps aussi, il ne faut pas brûler les étapes et il faut continuer à bien se préparer et notamment bien figurer pendant les matchs amicaux qui nous restent.
Élise Bousaglia, coup d'envoi 21h ce soir, un match à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Et on reste dans le foot avec, chez les hommes, la Coupe de France. Hein.
Qui pour rejoindre le PSG en demi-finale hier, c'est d'abord Rennes qui s'est qualifié aux dépens d'Orléans et puis Lyon un peu plus tard, 3-1 contre Caen. Lyon qui a fait oublier la défaite face à Monaco en championnat ce week-end. C'est la 11e qualification en demi-finale dans l'histoire de l'OL pour ce qui est de la Coupe de France. Jean-Michel Aulas, son président.
Je suis vraiment très, très heureux qu'on ait pris ce match, non seulement au sérieux, mais sur toute la durée du match. On a vu que l'Olympique Lyonnais voulait cette demi-finale. Donc après la, on va dire, mauvaise prestation à Monaco, c'était véritablement une victoire très bienvenue.
Jean-Michel Aulas au micro de Pascal Auclair. L'AS Vitré et Nantes se disputeront le dernier billet disponible pour les demi-finales de Coupe de France. Ce sera le 6 mars prochain.
Et évidemment, Simon, on termine avec l'histoire du jour.
Une histoire assez incroyable de dopage dans le monde du ski de fond. Hier, police criminelle autrichienne a démantelé un réseau international de trafic de produits dopants. Et c'est une histoire racontée par Christophe Lamar.
Qu'importe le nombre d'interpellations, ce qui compte, c'est la résonance que va donner cette opération coup de poing dont le nom de code a le mérite d'être clair. Aderlas l'a saigné. Au moment de son arrestation, un athlète était d'ailleurs en pleine transfusion sanguine. À Sifel, lieu des mondiaux de ski nordique, les questions succèdent à la stupeur. D'autres athlètes vont-ils tomber ou se retirer discrètement? La consultation des listes d'engagement dans les jours à venir apportera peut-être un début de réponse. Mais elle ne dira pas tout. L'affaire a aussi son versant allemand. À Erfurt, c'est le cabinet du docteur Schmidt qui a été perquisitionné. L'ancien médecin de l'équipe cycliste Gerold Steiner avait déjà été inquiété par le passé pour une affaire de dopage sanguin. À l'époque, il s'en était sorti indemne. La police autrichienne le soupçonne d'avoir appliqué les mêmes méthodes dans l'univers du ski nordique, mais d'autres sports pourraient être concernés.
Le papier de Christophe Lamar, après On de la Traconte, on peut lancer un Lamar raconte.
On est d'accord.
Je pense qu'on est pas mal.
On est d'accord. Merci beaucoup. C'était le journal des sports de Simon Rubin. Après l'activité physique, on passe à l'activité cérébrale grâce à Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, un mouvement de contestation secoue l'Algérie, des protestations contre la candidature du président Bouteflika à un cinquième mandat. Est-ce qu'on connaît les racines historiques de ces tensions?
Il y a d'abord les causes lointaines, celles de cette démocratisation manquée au lendemain de l'indépendance en 1962. La République est réduite à l'autorité d'un parti unique, le FLN. Et bientôt, l'armée, sous la direction du colonel Boumédienne, prend le pouvoir lors d'un coup d'État en 1965. Depuis, Les militaires jouent les premiers rôles dans la vie politique et limitent l'expression du suffrage. Cela a engendré un régime autoritaire, tout juste retouché par une éphémère libéralisation en 1988. Le président Bouteflika est en partie l'héritier de ce système. Et sous l'apparence d'un socialisme d'État à l'algérienne, depuis l'indépendance, toutes formes de corruption et de monopole se sont développées. Cela a limité la croissance économique et fragilisé un pays dont 45% des habitants a moins de 25 ans.
Et quel rôle joue le président Bouteflika dans tout cela?
Il a combattu pour l'indépendance. Il a été ministre sous la présidence Boumédiane. Il a profité du système, mais il a surtout joué un rôle central pour mettre fin à la guerre civile avec les islamistes. Cette guerre commencée en 1991. Après son élection en 1999, il a fait adopter la loi de concorde civile pour amnistier les crimes de cette époque. Cela a mis fin à la seconde guerre d'Algérie et évité au pays le choc des printemps arabes. Mais tout cela semble long aujourd'hui.
Pourquoi ?
Ça fera bientôt 20 ans que Bouteflika préside l'Algérie. Il a renforcé son emprise clanique sur le pouvoir et bloqué l'émergence d'un véritable système représentatif. En 2009, il a même fait adopter une réforme de la Constitution pour pouvoir dépasser deux mandats. Il achève maintenant le quatrième. Durant ses présidences, la vie culturelle algérienne a progressé, alors que la politique semble figée. Et par ailleurs, le pays n'a guère profité de sa rente pétrolière, d'où le désir d'une partie de la population d'ouvrir sa succession, d'autant plus que sa santé chancelante permet toutes sortes de manipulations au sommet de l'État, un État aujourd'hui moins transparent qu'hier.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. Et évidemment, la mobilisation se poursuit en Algérie. Nous y reviendrons dans les journaux. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1.
Il est 6h16, Eva Rock.
Debout les copains se poursuit, 2 heures d'actualité, de bonne humeur, mais aussi de regard critique. À 6h20, nous recevrons Thomas Fauré, entrepreneur et créateur d'un réseau social. Il voit d'un très mauvais œil le développement tentaculaire de Facebook. Autant dire que la journée sans Facebook, c'est une aubaine pour lui. Son analyse est à suivre sur Europe 1.
Il est 6h17, l'essentiel de l'actualité de ce 28 février avec vous, Eva Rock.
Le groupe Air France KLM, désormais presque aussi néerlandais que français, le gouvernement a encore acheté des actions hier et n'est plus qu'à un cheveu de la France au capital de la compagnie aérienne. Un homme interpellé hier en gare de Versailles, rive gauche, il a été surpris en flagrant délit en train d'inscrire des graffitis antisémites. On le soupçonne d'avoir dessiné de nombreuses croix gammées et des insultes dans les rames de train et des gares du RERC depuis une dizaine de jours. Sixième jour du salon d'agriculture aujourd'hui. C'est Marine Le Pen qui rendra visite aux éleveurs. Elle entend mettre en avant la consommation de produits locaux. Notez d'ailleurs que la tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes, Jordan Bardella, sera l'invité d'Europe 1 à 8h15.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Voilà pour les principaux titres de ce jeudi 28 février, l'actualité. C'est aussi la journée sans Facebook, créée en 2012 par un groupe d'utilisateurs européens. Facebook aujourd'hui, c'est 2,3 milliards utilisateurs dans le monde, un gigantesque réseau, une entreprise cotée à Wall Street, propriétaire de la messagerie instantanée WhatsApp ou encore de l'application de partage de photos et de vidéos Instagram. Mais Facebook, c'est aussi une série de scandales, notamment liés à la gestion des données personnelles. Bonjour Thomas Fauré.
Bonjour Eva Rock.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes entrepreneur, créateur d'un réseau social, Waller, auteur d'un livre intitulé « Transmettez » aux éditions Baudelaire et un farouche opposant à Facebook. Alors vous, c'est un jour ou 365 jours sans Facebook ?
C'est l'avenir après Facebook qu'il faut réussir à imaginer maintenant, et en particulier en France, en Europe.
Qu'est-ce que vous reprochez en fait au réseau social ?
Je lui reproche tout simplement de ne pas respecter nos libertés individuelles, de ne pas respecter les données de ses utilisateurs, de leur mentir sur le fond de l'affaire, parce qu'on vous dit que c'est un réseau pour évidemment être en contact avec vos amis, tisser des liens, et en réalité, toute la plateforme est faite pour vous vendre de la publicité, capter votre attention. Et effectivement, vous avez dit 31 scandales en 2018, et pourtant, la machine est là, elle continue à progresser. Voilà, c'est vraiment le syndrome de Stockholm.
C'est la gestion des données personnelles qui est, selon vous, le principal problème ?
Oui, c'est le principal problème qui est évidemment augmenté par la vision de son fondateur, qui est absolument pas une vision, à mon avis, humaniste, qui est une vision américaine peut-être, absolument pas européenne. C'est une plateforme qui correspond pas à la culture en France, la culture en Europe. C'est une plateforme qui n'est pas à dimension humaine, en fait.
Oui, mais alors, je comprends bien que la notion de liberté vous importe aussi, mais on est quand même libre de s'inscrire sur Facebook, ou d'en partir, ou de ne jamais y aller.
Est-ce qu'on est vraiment libre quand, vous savez, quand tout le monde utilise une même plateforme, si vous n'y êtes pas, eh bien, finalement, vous êtes exclu. Donc, c'est le principe de ces plateformes où tout le monde est. Et au final, on est nécessairement obligé de s'y inscrire. Donc, je ne crois pas qu'on soit absolument libre de s'y inscrire. La preuve, c'est très difficile de supprimer son compte aujourd'hui.
Aurélien Fleureau.
Est-ce que le fait que les jeunes ados utilisent moins Facebook, ça vous rend optimiste ou vous vous dites, il y a peut-être un autre réseau social avec les mêmes pratiques qui va le remplacer ?
Alors, il est certain que Facebook va sûrement, il a déjà fait racheter les réseaux qu'utilisent les jeunes, ça c'est clair. Hein. Ils ont racheté Instagram, ils ont racheté WhatsApp, ils sont en train de fusionner les plateformes, ça il faut le savoir. Ce que vous écrivez sur WhatsApp aujourd'hui avec vos amis, eh bien, va nourrir la publicité sur Facebook, ce qui est quand même un scandale.
Donc pour vous, le système, il risque de perdurer si on n'agit pas ?
Il va perdurer tant qu'on sera dans le discours. Et moi, ma conviction, c'est que la sortie ou l'avenir peut être dessiné, comme d'habitude, uniquement par les entrepreneurs, par les personnes qui ont le courage de dire on peut inventer quelque chose de mieux. C'est très difficile parce que dans le monde de l'entreprise aujourd'hui et en France en particulier, quand vous êtes un entrepreneur qui veut s'attaquer comme ça à un géant, évidemment, c'est très difficile d'aller trouver des fonds d'investissement, du financement. Or, il faut beaucoup d'argent, évidemment. Donc, le sujet, c'est la souveraineté numérique en Europe. C'est un sujet politique, éminemment politique, parce que là, on parle des données personnelles. Mais le deuxième problème, c'est un problème démocratique, c'est qu'aujourd'hui, Facebook est influent. Les algorithmes de Facebook qui vous présentent les nouvelles que vous voyez sur votre smartphone, finalement, c'est les Américains qui décident ce que nous voyons. Et ça pose un problème. Ça a posé un problème dans les élections américaines. Ça pose même des problèmes pour les Américains eux-mêmes. Et ça, c'est un sujet de démocratie.
Thomas Fauré, vous êtes créateur d'un réseau social qui s'appelle Waller. Comment condamner un réseau d'un côté pour en créer un autre de l'autre côté ? C'est parce que vous n'avez pas la même philosophie dans la conception de ce réseau ?
Moi, j'ai créé Waller parce qu'au départ, Facebook, honnêtement, c'était formidable. Et que la technologie des réseaux sociaux, c'est la technologie qui finalement est la technologie d'Internet, c'est la même chose. Et donc je peux être qu'enthousiaste par rapport à ces sujets.
Oui, vous prônez pas la déconnexion totale, on
est
d'accord.
Non, pas du tout. Ouais. Je prône simplement l'avenir, c'est-à-dire que, bien sûr, on a vu ces premières plateformes de réseaux sociaux, elles ne vont pas durer éternellement. À un moment, tout le monde se rendra compte que toute notre attention est captée, que c'est pas forcément bon pour nous. Et moi, mon action, c'est de pouvoir créer, en fait, la deuxième étape, c'est-à-dire sur une technologie qui est un peu similaire, mais avec des fondements bien différents. Sur Waller, c'est la protection des data avant tout, la protection de l'usage, redonner simplement le contrôle aux gens sur ce qu'ils font, savoir à qui ils s'adressent, c'est des choses qui peuvent paraître absolument
concrètement
mineures.
Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne votre réseau social? En fait, c'est par petits cercles, c'est ça, c'est je communique avec mes amis, mais les gens que je connais vraiment, ma famille, les gens du travail, c'est ça?
Alors, c'est pas forcément des petits. Alors, on appelle ça des sphères. Donc, l'idée de Waller, c'est chaque personne, chaque utilisateur peut créer ses propres réseaux sociaux privés, sécurisés sur la plateforme. On appelle ça des sphères. C'est des réseaux qui peuvent servir évidemment pour la vie quotidienne, mais aussi qui vont servir en entreprise, dans les institutions. Vous voyez, on a en fait, notre modèle économique, c'est vendre notre produit aux entreprises, aux grandes écoles, aux associations, etc., afin qu'elles se constituent leur propre plateforme, leur propre Facebook, en fait. Et d'avoir, plutôt que d'avoir une grande plateforme où tout est mélangé, eh bien, chacun va pouvoir se créer sa propre plateforme et la maîtriser.
Pour revenir sur Facebook, vous ne trouvez aucune vertu à ce réseau social? Parce que je pensais au printemps arabe, on parle beaucoup de l'Algérie en ce moment, les printemps arabes sans Facebook, on ne sait pas vraiment si ça aurait pu avoir lieu, les gilets jaunes sont nés aussi sur Facebook, comment on aurait fait sans Facebook?
Bon, vous trouvez que le printemps arabe, ça a réussi?
Ah ben après, c'est une question politique.
Évidemment. Alors, est-ce que je trouve des vertus à Facebook? Oui, parce que ce sont les vertus d'Internet. C'est la vertu de connecter les gens les uns avec les autres, de le faire intelligemment. Voilà, et c'est la vertu qu'on trouve aussi sur Waller, évidemment, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que Internet n'appartient pas à Facebook. Et aujourd'hui, quand vous n'avez rien à faire dans le métro, vous regardez votre portable, machinalement, vous allez cliquer sur Facebook, vous allez perdre 5 minutes, voilà.
C'est le côté monopolistique de Facebook qui vous embête.
Absolument.
Twitter pour donner son opinion, Instagram pour les photos, WhatsApp pour communiquer, LinkedIn pour trouver un job. Quel est l'intérêt d'être encore inscrit sur Facebook ou sur un réseau, effectivement, social plus général? Est-ce qu'on ne parle pas d'un réseau qui est déjà en train de mourir, au fond?
Oui, il n'y a plus aucun intérêt d'être, évidemment, connecté à Facebook, ça c'est clair. Moi, j'ai supprimé mon compte l'année dernière lorsqu'il y a eu les scandales. Bon... on peut vivre autrement. Il y a beaucoup d'outils technologiques qui existent, il y en a chaque jour qui naissent. Et de toute façon, dans la technologie, tout a toujours tourné. Vous n'avez plus, aujourd'hui, vous n'avez plus les Netscape, les Nokia, vous voyez. Donc la technologie évolue, elle tourne, c'est ce qu'on appelle des révolutions. Et donc, évidemment, maintenant, il est temps de quitter Facebook.
Alors, vous croyez en la vertu d'une journée sans Facebook ? Est-ce que ça a vraiment du sens ?
Oui,
oui, parce qu'on vous invite ce matin, c'est ça en
fait ? Oui, évidemment. Ça a une vertu pédagogique parce que, évidemment, ce sont des sujets très importants. C'est des sujets de société aujourd'hui et oui, une vertu pédagogique, ça veut dire aussi qu'il y a un problème. Pourquoi cette journée existe ? C'est pas moi qui l'ai créée. Évidemment, je suis très heureux de pouvoir y participer, surtout pour raconter mon projet. Parce que le sens de Waller, c'est évidemment pouvoir essayer d'imaginer quelque chose de plus vertueux.
Merci infiniment Thomas Forêt d'avoir répondu présent à notre invitation ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Transmettez, c'est aux éditions Baudelaire. Bonne journée.
Merci Eva.
Il est 6h26, c'est Varoc.
Debout les copains continuent sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. Laurent Cabrol nous dit tout sur la météo du jour.
Il est 6h27, Eva Rock.
Avant de retrouver le journal de 6h30, la météo avec vous, Laurent Cabrol.
Et avec l'arrivée très lente de la pluie, pour l'instant, elle ne se manifeste pas sur la France. C'est du vent qui s'est levé. Le vent s'est levé, tant mieux pour la pollution, sur la moitié nord. Nous aurons sur la Normandie, la Picardie, la Vallée de la Loire, beaucoup de nuages ce matin et quelques averses. Ces averses vont gagner dans l'après-midi le nord, la Champagne-Ardenne, le centre, la région parisienne, la Lorraine, la Bourgogne et les Vosges, ainsi que la Sarthe et la Mayenne. Cet après-midi seulement, donc dans ces régions, les nuages vont donner quelques ondées, quelques pluies sur le bassin méditerranéen comme sur le littoral atlantique. Nous aurons, et comme sur la région Rhône-Alpes, nous aurons encore du soleil, car le soleil ne baisse pas pavillon aussi rapidement que cela. Massif central, Alsace et Franche-Comté, des nuages, mais des nuages secs, ça existe. Les températures maximales, 13 à Charleville, 14 à Caen et Lille, 15 degrés à Rennes, à Clermont-Ferrand, 16 à Nancy et Paris, vous voyez qu'elles sont quand même relativement douces encore, hein. 17 à Besançon, décidément, 18 à Lyon, 19 à Colmar, 23 à Orange et 24 degrés à Nîmes. Et demain, vendredi, c'est l'Est qui sera touché par les intempéries. Mais les intempéries qui restent encore mesurées, ça va vraiment se déchaîner.
Oh, non, c'est un peu fort, déchaîner.
Non, le mot est fort. Trouvez-moi un mot plus simple.
Ça a bougé, quoi. Ça a bougé.
Oui, ouais. Et puis vous n'avez pas autre chose ?
Secouer ?
Allez, secouer. Ça va
changer,
secouer.
Ça va changer. Quoi.
Bon, allez, à part ça.
Merci,
ça
Laurent.
Ça s'appelle la météo collective. C'est à partir du dimanche, voilà, c'est ce que je voulais dire.
D'accord.
À partir du dimanche, ça va se gâter.
Merci, Laurent. Dans une minute, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, hein, 5 à 7, au cours duquel nous nous efforçons de vous délivrer les dernières informations avec bonne humeur. Après le journal du fantastique David Doucan, rendez-vous avec trois autres fantastiques. Politique, économie, médias, il décrypte l'actualité pour vous. Mickaël Darmon a des informations concernant la constitution de la liste de la République en marche pour les européennes. Axel de Tarlé revient sur un projet spatial d'importance, OneWeb. Et puis Aurélien Fleurot a déjà regardé Complément d'enquête diffusé sur Soir et dont le sujet est le lobby du vin. Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h sur Europe 1, Eva Rock. Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
Et si l'égalité femmes-hommes passait d'abord par la langue, la nôtre fait la part belle au genre masculin. Faut-il dire autrice au lieu d'auteur, écrivaine au lieu d'écrivain, l'Académie française ouvre la porte. Comme chaque année, extrême tension entre la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire. Les négociations commerciales doivent se terminer avant demain minuit. Et puis aux États-Unis, il est passé à table, il a dressé un portrait au vitriol de son ex-patron, Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, l'a étrillé hier devant le Congrès.
Europe 1.
Ce serait une volte-face, peut-on dire autrice au lieu d'auteur, écrivaine au lieu d'écrivain, ou encore une colonelle avec deux LE. L'Académie française s'y est traditionnellement toujours opposée, mais elle présente aujourd'hui un rapport sur la féminisation des noms de métiers, des grades et des fonctions. Les immortels ont décidé d'évoluer. Ève Roger.
À l'origine de ce rapport, ce sont des femmes qui ont écrit à l'Académie française en décrivant le malaise qu'elles vivaient au quotidien. Comment se nommer par exemple quand on écrit ? Un écrivain ou une écrivaine ? Et quand on est chef d'entreprise ? Un entrepreneur ou une entrepreneuse ? En guise de réponse, les immortels ont choisi, non pas d'édicter de nouvelles règles, mais d'observer si la féminisation des métiers était entrée dans les usages, à la fois dans la littérature, à l'université, dans les médias et même dans le langage courant. Et la conclusion s'est imposée à eux, la féminisation a bel et bien progressé. Et ce simple constat est en soi, pour Dominique Bonnat, académicienne et auteur de ce rapport, un immense progrès.
L'Académie montre un formidable esprit d'ouverture. C'est important ça, parce que jusqu'à maintenant, l'Académie était quand même un petit peu sourcilleuse. Et là, l'Académie va tolérer les féminins qui, pendant très longtemps, ont été interdits par l'Académie.
Aux femmes maintenant de choisir, dit l'Académie, être un colonel ou une colonelle, un rabbin ou une rabbine, une auteure ou alors une autrice, un terme pourtant condamné par l'Académie française elle-même au XVIIe siècle.
Ève Roger, pour Europe 1. Comme chaque année, en parallèle du Salon de l'Agriculture, se déroule une lutte à couteau tiré. Les négociations commerciales entre grandes distributions et industriels de l'agroalimentaire, toujours extrêmement tendues. La loi alimentation devait améliorer les pratiques et permettre aux agriculteurs d'être mieux rémunérés. Alors est-ce le cas ? Reportage Anne-Laure Jumet.
Tout va se jouer dans les dernières heures, surtout pour les cas les plus compliqués. Et d'ailleurs, certains industriels et distributeurs continuent au Salon de l'Agriculture de manière plus informelle les négociations. Nicolas Houziel, directeur général du développement de Florine Michon.
À deux jours de la clôture des négociations, j'ai signé 60% de mes accords. La guerre des prix continue. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que ce soit plus simple avec un distributeur qu'avec un autre.
Du côté de la grande distribution, on affirme que tout se passe bien. C'est donc de part et d'autre toujours la guerre de communication. Et au milieu, les agriculteurs disent manquer de transparence. Même la filière lait qui s'en sort mieux cette année a du mal à voir la photo globale. Marie-Thérèse Bonneau, vice-présidente de la Fédération des producteurs de lait.
On ressent des éléments positifs, en tout cas c'est ce qui nous est rapporté. Il y a d'ailleurs de la communication sur des accords passés, mais il faut aussi dire qu'ils ne concernent que les marques nationales et on n'a pas l'état du volume que ça peut représenter ni de la hausse des tarifs que ça représente.
Mais pour avoir un vrai bilan, il faudra attendre. Le gouvernement a prévu de réunir en avril le comité de suivi des négociations commerciales.
Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1 sur le plan politique au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui rend visite aux agriculteurs. Les suites de l'affaire Air France KLM, le gouvernement néerlandais enfonce le clou. Il a achevé son opération d'acquisition et détient désormais 14% du capital de la compagnie, à quasi-égalité donc avec l'État actionnaire français. La France, qui juge cette intervention inattendue et inamicale, Emmanuel Macron a demandé des clarifications. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, recevra son homologue néerlandais en fin de semaine. Uber lance l'offensive sur les sports d'hiver. Depuis le 9 février et jusqu'à la fin des vacances scolaires, la firme américaine propose d'emmener les vacanciers qui arrivent en train à Grenoble jusque dans les principales stations. Et bien sûr, comme en ville, les taxis ne sont pas contents. Le match taxi-Uber existe aussi avec les pneus neige. Rémi Pierre.
Un forfait à 45 euros pour les stations proches, comme les Sept-Lots, 90 euros pour aller par exemple aux Deux Alpes. Ce sont les tarifs de l'offre Uberski. Jean-Louis travaille pour Uber à Grenoble depuis plusieurs semaines et pour lui, c'est clair, ce nouveau service a toute sa place.
Pendant les 15 jours de Noël, jour de l'an, j'ai travaillé tous les jours. Je montais une fois à deux fois par jour en station. Il y a une réelle demande de ce service pour monter en station. Le week-end, bien sûr, mais pour les vacances, là, ça n'arrêtera pas.
Forcément, du côté des taxis, on fait grise mine avec des courses 20 à 30 euros plus chères. Pour Alexandre Marier, cette concurrence déloyale va fragiliser sa profession.
Il y avait déjà tous les autocaristes plus ou moins privés avec subventionnés. Donc nous, on a vu forcément la fréquentation déjà qui a baissé ces dernières années. Si aujourd'hui vous rajoutez une concurrence supplémentaire avec des prix plus qu'agressifs, on va forcément à un moment donné avoir une part de marché qui va diminuer.
Mais pour de nombreux skieurs comme Camille, un jeune parisien, la solution la plus économique reste tout de même la navette par bus.
On perd pas énormément de temps par rapport à un autre moyen. Là, on paye 15 euros le billet pour monter, 15 euros pour descendre par rapport au prix d'un Uber ou d'un taxi, on est quand même gagnant dans l'affaire.
Cette offre promotionnelle d'Uber n'est valable que pendant 4 semaines, pendant toute la durée des vacances scolaires. À Grenoble, Rémi Pierre, Europe.
À suivre dans votre journal, David Doucan, l'ancien avocat de Donald Trump a tout balancé. Portrait au vitriol du président des États-Unis. A tout de suite.
Il est 6h36.
Europe 1.
Il est 6h37, Eva Rock.
La suite du journal, David Doucan. Donald Trump, tricheur, fraudeur, raciste, un comportement de boss de la mafia.
Oui, tout cela est dit par celui qui était son avocat pendant 10 ans. Michael Cohen témoignait hier devant le Congrès américain. Il a accablé le président des États-Unis. Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à New York et vous êtes en direct pour Europe 1. Xavier, on a entendu ce témoignage effectivement accablant. Quelles conséquences maintenant pour Donald Trump ?
Bah, c'est toute la question après ce grand déballage de plus de 7 heures. Les accusations de Michael Cohen sont graves. Il dit avoir commis des délits à la demande de Donald Trump. Mais c'est souvent du parole contre parole. Il n'y a pas vraiment de preuves. L'élément le plus tangible et le plus ennuyeux pour le président américain, c'est ce chèque que son ex-avocat a montré aux élus. On y voit la signature si reconnaissable de Donald Trump, vous savez, en forme de sismographe, et un chiffre. $35,000, un remboursement à Michael Cohen de l'argent avancé pour faire taire les maîtresses de Donald Trump pendant la campagne. Et ce chèque, eh bien, c'est la preuve que le président américain a violé les lois sur le financement électoral, affirme son ancien homme de confiance. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump a commis un crime fédéral ? Oui, je le pense, a déclaré le patron démocrate de la commission parlementaire qui entendait Michael Cohen. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une procédure d'impeachment, de destitution ? Pas si vite, disent avec prudence les démocrates. Il reste encore à connaître les conclusions du procureur spécial sur une éventuelle collusion avec la Russie. Et elles sont attendues dans les prochaines semaines.
Merci à vous, Xavier Yvon. Vous étiez en direct pour Europe 1 de New York. Partons 10 000 kilomètres plus à l'est, en direction de Hanoï, au Vietnam, où se tient le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord. En ce moment, le dictateur nord-coréen a déclaré que l'ouverture d'un bureau de liaison américain à Pyongyang serait le bienvenu. Kim Jong-un a ajouté qu'il ne se serait pas déplacé s'il n'était pas prêt à la dénucléarisation. Mais que recouvre précisément ce terme ? C'est ce qui reste à définir. De son côté, Donald Trump a indiqué qu'il n'était pas pressé, je cite, de parvenir à un accord sur le nucléaire. Ma chère Eva, si je vous dis Van Gogh...
Ah oui,
si
je sais de quoi vous allez parler.
Je vous dis Van Gogh, je vous dis l'Atelier des Lumières à Paris.
Oui.
Et vous comprenez que ce n'est pas une simple exposition que Diane Chenouda va nous présenter.
C'est une expérience.
C'est ça, c'est une expérience.
Les tournesols, comme vous ne les avez jamais vus, 500 tableaux de Van Gogh s'animent grâce à une nouvelle technologie. Michael Cousigou est le directeur de l'Atelier des Lumières.
Ce sont des photographies en très haute définition des œuvres d'art. En fait, on fait rentrer ces images à l'intérieur d'un logiciel et donc il y a un énorme travail de composition, d'animation de ces différents tableaux. Là, on va zoomer sur certaines parties, on va voir toute la matière, le relief de la toile et puis on va voir évidemment aussi les coups de pinceau, les coups de brosse très énergiques de Vincent Van Gogh.
Images diffusées par 140 vidéoprojecteurs sur une musique qui nous transporte dans chaque tableau.
Les quatre saisons, c'est sur évidemment toute la période provençale où là on a effectivement l'impression d'être dans ces paysages, d'entendre le Mistral, d'être vraiment dans le sud de la France avec Vincent Van Gogh.
Un voyage sensoriel dans l'univers de Van Gogh qui attire 4000 visiteurs par jour.
Voilà qui donne envie, Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Vous êtes en train de vérifier, Eva, la distance précise entre New York et
exactement,
Hanoï.
Exactement.
Oui, j'ai dit 10 000 km tout à l'heure parce que je le faisais de tête, mais c'est effectivement 13 000.
Ah, c'est 13 000.
Voilà, c'est 13 000
peut-être.
Kilomètres,
j'ai pas eu le temps de vérifier là. J'arrive
soyons
pas
précis,
retrouver.
C'est important la précision.
Mais merci. Merci David Doucan. On vous retrouve pour un nouveau journal à 8h et puis à 8h15, vous serez face à quelle politique ce matin ?
Je reçois la tête de liste Rassemblement National pour les Européennes, Jordan Bardella.
Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et du côté du ciel, Laurent Cabrol,
ouais.
Est-ce qu'il y a matière à discussion ?
Je suis en train de faire le calcul entre Strasbourg et Lyon. Alors là, je retiens 350 km, peut-être 400, je ne sais pas. Mais j'ai regardé les pressions atmosphériques, chers amis. Si vous avez un baromètre, vous tapotez, vous savez, on tapote sur les baromètres toujours. Et vous voyez, il est légèrement à la baisse. Mais il ne baisse pas très vite. Les pressions atmosphériques sont encore assez élevées, du genre de 1020 sur la moitié nord. Nous avons même du 1032 sur les régions du sud. Cela signifie que l'anticyclone fait de la résistance. Et quand l'anticyclone fait de la résistance, ça veut dire que les nuages arrivent beaucoup plus lentement que prévu. En fait, non, ils arrivent quand même à bonne vitesse, mais ils ne donneront pas beaucoup de pluie aujourd'hui. Les pluies essentiellement seront présentes sous forme d'averses sur la Normandie, la Picardie, la Vallée de la Loire, avec du vent, et comme sur la région parisienne dans l'après-midi, ce ne sont que des averses. Je voudrais vous donner quelques... Et puis sur la moitié sud, ce sera plutôt bien.
Quelques températures, c'est ça ?
C'est une bonne idée. Allez. Une température minimale, celle de ce matin. 0 à Nancy, 3 à Lyon, 4 à Besançon, 5 à en banlieue parisienne, 8 à Paris-Ville, à Marseille et Nice, à Nantes, Cognac et Bordeaux, 9 degrés, 10 degrés à Caen et 11 degrés à Brest et à Toulouse.
Merci beaucoup Laurent, merci, à tout à l'heure. Anissa.
On est très à cheval sur les distances hein, ce matin, comme vous avez pu le constater. Entre Strasbourg et Lyon, mon cher Laurent, il y a 489 kilomètres.
Ah oui, il vous en manquait quelques-uns de kilomètres. Anissa, depuis 5h ce matin, on est aussi en lien avec les auditeurs sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On leur a demandé leur premier CD, puisque c'est la naissance du CD aujourd'hui.
En Europe, évidemment.
Qu'est-ce que vous avez comme réponse
hein? On a vraiment des tubes du grenier hein, qui sont ressortis. On a Marie-Laure qui nous dit « Mon tout premier album acheté avec mes sous, précieusement économisé, fut celui de Boris. » Vous vous souvenez ? Soirée disco.
Ah non.
Total Mega Groove.
Ah
non,
bon,
mais vous souvenez pas.
Bah non, je me souviens pas, pardon. Excusez-moi. Essayez de me faire un souvenir plus récent, enfin un truc que je connais.
Alors, un souvenir plus récent. Qu'est-ce qu'on a ? Ah si, ça va vous plaire. Chloé qui nous dit « Moi, je suis née en 95. » Je me souviens plutôt de la fin des cassettes audio et je me souviens en particulier de l'album Près de toi de Laurie. Ça, c'était son premier CD.
D'accord.
Vous vous souvenez ? Non, c'est trop.
Non, mais c'est pas grave. Si, c'est...
On n'a pas les Charlots en CD.
Il y a Axel de Tarlé qui revient d'entrer dans ce studio et qui a une. Qui a... Et si vous ne mettez pas votre micro, ça va pas marcher, voilà. Axel. Alors. Oui, vous voulez pas ?
Voilà, je me souviens à l'arrivée du CD, c'était magique, 1984, c'était Dure Limite de Téléphone, l'album jaune.
Ah, c'est vrai, c'est
ça vous parle exact. Plus, c'est
vrai. Ouais,
moi, c'est d'ailleurs souhaite.
Alors, attendez, j'en ai un petit dernier, ça vous parlait à tous. Avec l'achat de ma première platine, c'est Acte Lumière qui nous dit « Mon premier CD, c'était la bande originale d'un film, et c'était ça. »
Ah, bah, Le Grand Bleu, forcément.
Éric Serra, bien sûr.
Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs d'avoir participé depuis ce matin, 5h. Merci Anissa.
Europe 1. Il est 6h43, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2h dès le petit matin pour tout savoir sur l'actualité. À suivre, politique, économie, médias. L'actualité vue par nos trois fantastiques, c'est maintenant sur Europe 1.
Europe 1. Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité de ce 28 février, Eva Rock.
Les suites de l'affaire Air France KLM, le gouvernement néerlandais enfonce le clou. Il a achevé son opération d'acquisition et détient désormais 14% du capital de la compagnie, à quasi égalité donc avec l'État actionnaire français. Le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord en ce moment à Hanoï au Vietnam, le dictateur nord-coréen a déclaré que l'ouverture d'un bureau de liaison américain à Pyongyang serait le bienvenu. De son côté, Donald Trump a indiqué qu'il n'était pas pressé de parvenir à un accord sur le nucléaire. Et puis, autrice au lieu d'auteur, écrivaine au lieu d'écrivain ou encore une colonelle avec deux L E, l'Académie française présente aujourd'hui un rapport sur la féminisation des noms de métiers, des grades et fonctions.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Il est 6h46 et il est l'heure de retrouver nos super-héros de l'info. Voici donc les trois fantastiques, Aurélien Fleurot pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie et le retour de Mickaël Darmon pour la politique. Et d'ailleurs, on débute avec vous, Mickaël. Bonjour, Mickaël.
Bonjour, bonjour à tous.
Ces temps-ci, le benchmarking, c'est-à-dire le fait de comparer des produits, fonctionne aussi en politique. Alors, qui compare quoi, Mickaël Darmon ?
Eh oui, c'est comme dans le monde des affaires ou du commerce. Hein. C'est vrai qu'on peut se combattre sur les idées, mais les méthodes utilisées par les concurrents sont toujours regardées de près. Ainsi, à La République En Marche, on considère qu'il y en a un qui a bien travaillé. Et figurez-vous, c'est Laurent Wauquiez.
Ah, bah, oui. C'est la surprise du jour,
étonnant,
ça.
Effectivement, du côté des marcheurs. Mais pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'idée de mettre en avant un trio hein, autour de François-Xavier Bellamy, philosophe plutôt conservateur, avec des personnes de sensibilités différentes ou représentant des courants différents dans le parti, eh bien c'était une bonne idée, dit-on à La République En Marche. Ça montre le rassemblement et ça atténue les risques de crash politique d'une liste plus novice.
Donc l'idée fait son chemin du côté de La République En Marche.
Alors avec une variante macroniste hein, évidemment, si l'idée est retenue on peut aller du duo jusqu'au carré magique, hein, 4 têtes de liste hein. La question n'est pas seulement de copier, on s'en doute, il y a des impératifs qui interdisent le droit à l'erreur. La campagne sera très courte. Les sondages, on le voit, sont très serrés avec le Rassemblement National et tout peut se jouer sur les premiers pas, les premières déclarations, le premier meeting. C'est la raison pour laquelle ces jours-ci, l'exécutif essaye de convaincre à la fois Agnès Buzyn dont les engagements pro-européens et progressistes face à un Bellamy ou un Bardella sont évidemment un atout, mais également la ministre de la Santé, il faut le savoir, n'a pas les réseaux ni la connaissance des rouages européens de Nathalie Loiseau, par exemple, qui elle donc, travaille donc secrétaire d'État donc, aux affaires européennes. Et puis, il faudra également donner un signal de rassemblement aux centristes, aux écologistes. Bref, les discussions avec certains transfuges possibles également du côté d'Europe Écologie Les Verts continuent encore. Le principe a été posé par le président de la République. La liste qui rassemblera le plus sera celle qui pourra l'emporter. Alors, deux, trois ou quatre têtes de liste pour porter une liste aussi large, pourquoi pas ? Il faut savoir que le dispositif est entouré du plus grand secret, mais tout se décide dans un seul bureau, celui de l'Élysée. La République délibérative, c'est bien, mais à condition que le président reste le seul décisionnaire.
Et réponse très prochainement, j'imagine, Michaël Darmon.
Parce dans les prochains jours.
Dans les prochains jours. On en reparlera bien évidemment. Axel, vous nous parlez ce matin d'un projet européen baptisé OneWeb. L'objectif, c'est de connecter la Terre entière à Internet avec des satellites.
Voilà, donc c'est un projet soutenu par Airbus qui fabrique ces satellites. Donc l'idée, c'est effectivement que de connecter tout le monde avec les satellites. Et donc les 6 premiers ont été lancés hier soir depuis la base de Kourou en Guyane. Bah écoutez, je vous propose d'écouter ce lancement. 22h37, heure de Paris. Là, il doit partir, théoriquement.
La fusée, elle est restée. Il est bloqué. Satellite est bloqué.
Alors, ça ne marche pas.
Vous ne voulez pas nous faire mal.
Je vais vous faire 4, 3, 2, 1, décollage.
Ah, vous le faites bien.
Et voilà. D'accord. Alors après, on devait chointer, mais je vais commencer à parler sur le décollage.
Et je suis sûre que tout s'est bien passé en
Exactement,
plus.
Sinon je n'en aurais pas parlé comme ça. Les 6 satellites ont été placés en orbite. Alors on n'est pas au bout de nos peines, parce que OneWeb dit pour que ça marche parfaitement dans le monde entier, il n'en faudrait pas 6, il en faudra 650. Donc vous voyez, il est prévu de multiplier les lancements, mais l'entreprise a levé pour ça près de 2 milliards de dollars, parce que plus on a de satellites, évidemment, plus la couverture mondiale s'améliore.
Alors on peut se connecter à Internet presque partout maintenant. Quelle est l'utilité en fait de ces satellites?
Alors on peut se connecter presque partout, mais pas partout, dans les zones
c'est
montagneuses.
C'est le presque en fait.
Voilà, c'est le presque qui change tout. Et puis on ne peut pas se connecter par exemple dans les océans. Un bateau, il n'a pas de fibre optique. Dans les airs, les avions, il n'y a pas de fibre optique. Et donc vous voyez, alors il y a déjà des constellations satellitaires qui offre Internet, mais par exemple, la constellation Iridium, elle n'a que 66 satellites, c'est pas beaucoup. Là, l'objectif, c'est vraiment 650 pour amener un Internet à très haut débit, compatible avec toutes les normes, 3G, je vous fais un peu le dépliant de OneWeb, puis c'est européen, comme vous l'avez dit. Donc, pour apporter la 3, 4G, 5G et même le Wi-Fi. Et donc, l'objectif, c'est d'être opérationnel dès 2020. Alors, on n'a
pas encore... demain quand même.
On n'a pas encore le détail des prix, mais c'est bien une connexion terre-mer. Alors, il reste encore quelques satellites à lancer, je vous ai dit. Si je calcule bien, on en a lancé 6 sur 650, donc il en reste 644. La prochaine fois, je vous promets, on pourra vous
passer
le sonore.
Allez, pour vous faire plaisir, alors, pour voir si c'était soir, mieux, vous, heures, ou
hier
le vrai
soir,
lancement.
22h37, nous sommes à Kourou, 22h37, heure française.
Take 2. 3, 2, 1, top, décollage.
Axel, d'abord c'est pareil, et vous savez que votre chronique sans ce son aurait été vraiment une catastrophe.
Voilà.
Je le reconnais.
Tout s'est bien passé.
Et tout s'est bien passé. Merci beaucoup Axel. On va terminer ce tour de table avec vous Aurélien, et un sujet passionnant, le vin, avec modération évidemment. Deux reportages sont diffusés ce soir sur le lobby du vin très puissant en France.
Oui, c'est le thème du numéro de complément d'enquête ce soir à 22h50. Premier reportage avec pour point de départ les récents propos de l'exécutif concernant le vin, qui est, je le rappelle, le deuxième secteur d'exportation, qui rapporte 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année en France. Alors, il y avait eu les paroles, évidemment, du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Le vin n'est pas un alcool comme les autres. Mais avant, il y avait eu aussi Emmanuel Macron qui expliquait à des vignerons « Moi, je bois du vin le midi et le soir » ou encore le « J'aime le vin » du Premier ministre Édouard Philippe. Et le sujet dévoile quelques coulisses d'un lobbying assez classique de la part notamment de Vins et Sociétés, structure qui regroupe tous les acteurs de la filière et qui essaie de faire passer ses messages auprès des politiques. Moins classique, en revanche, la séquence où Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, découvre que dans 800 écoles et dès le primaire, il y a parfois des kits pédagogiques qui sont mis à disposition, alors entre l'apprentissage et le jeu, autour du vin, mais sans aucune mise en garde sanitaire sur les effets de l'alcool.
Oui, alors le second reportage s'intéresse à un grand patron du secteur, plutôt méconnu, mais incontournable.
Oui, le sujet s'appelle le Baron du Rouge. C'est un portrait de Pierre Castel, 92 ans, 8e fortune de France, à la tête d'un empire mondial de 12 milliards d'euros. Alors si je vous dis Baron de l'Estac, Roche-Mazet, La Villageoise, et bien tout ça, c'est lui, tout comme le réseau de cavistes Nicolas. Mais ce discret millionnaire, très rare dans les médias, a surtout fait fortune en Afrique.
Là-bas, Pierre Castel est l'empereur de la bière.
Tout le monde connaît la Castel, la bière, tout le monde cite le nom de Castel.
C'est un marché extrêmement juteux et sans doute le plus juteux des marchés au monde.
Intime des chefs d'État africains, on le dit plus influent que Martin Bouygues ou Vincent Bolloré.
Monsieur Castel, c'est des millions de personnes qui l'emploient. C'est le chef.
Voilà, c'est très bonne chef, enquête signée Pierrick Morel et Leslie Fauvel. C'est donc ce soir sur France 2 à partir de 22h50.
Et je vous précise que parmi les invités de Jacques Cardos qui présente l'émission, vous pourrez voir Olivier Pouls, Olivier que l'on retrouve aux côtés de Laurent Mariotte dans la table des gourmands à 11h sur Europe 1. Merci beaucoup Aurélien Fleureau, Axel de Tarlé et Mickaël Darmon. Nous vous attendons demain, même endroit, même heure, peu avant 7h moins le quart.
Il est 6h53, Eva Rock.
Debout les copains touche à sa fin. Dans quelques minutes débutera la matinale de Nikos Aliagas, un passage de relais en musique avec de la très bonne musique et notamment la voix de Norah Jones.
I'm alone, but I feel alright.
Il est 6h54, Eva Rock.
Debout les copains s'apprêtent à céder la place à la matinale de Nikos Aliagas. Nikos, ce matin, pas de son détourné, pas de montage fallacieux, pas de propos tronqués, non, de la musique. Ah. Quel est, selon vous, le point commun entre Norah Jones avec cette voix d'homme, Gregory Porter,
évidemment, avec son bonnet,
ou encore ce pianiste français, Michel Petrucciani? Est-ce que vous vous souvenez du point commun entre ces trois artistes? Eh bien, ces trois artistes, mon cher Nikos, ils ont tous posé leur nom et leur visage sur une pochette d'album estampillée Blue Note. Blue Note, célèbre label de jazz dont les productions ont rythmé l'histoire d'une émission qui est née sur cette antenne en 1955, créée par Frank Teno et Daniel Filipacchi, pour ceux qui aiment le jazz. Eh bien, Blue Note fête ces jours-ci ses 80 ans d'existence. Jazz Magazine consacre d'ailleurs un magnifique numéro spécial à cet anniversaire. Et puis Blue Note, c'est une histoire. C'est l'histoire de ses fondateurs, Alfred Lion et Francis Wolff, deux amis d'enfance, juifs allemands, qui ont fui le pouvoir nazi. Le premier débarque à New York en 1936, le second le rejoint en 1939. Et ensemble, ils décident de réaliser leur rêve, enregistrer des musiciens afro-américains et créer un label de jazz.
Magnifique.
Lion s'occupe des enregistrements, Wolff de la signature graphique, Blue Note est né, et avec eux, Thelonious Monk, Horace Silver ou encore Art Blackie. Ils avaient quitté l'Allemagne pour échapper aux nazis qui considéraient le jazz comme un art de dégénéré. Eh bien, ils ont écrit les plus belles pages du jazz moderne.
Vous nous faites plaisir ce matin, Eva Rock.
Un petit peu de Thelonious Monk pour vous passer le relais, mon cher Nikos.
Ah, la classe, vous avez cette élégance, cette prestance et surtout ce besoin d'aller au fond des choses, d'aller à la source. Et la source, c'est aussi ça. Où est mon tuxedo ce matin? Où est mon black tie? On a rêvé, mais merci, reposez-vous bien Eva Rock, merci à toute votre équipe.